Salut et bienvenue dans la 70e édition de Tatapoum sur Cause Commune 93.1. Tatapoum, une émission où ça débat avec plus ou moins de mauvaise foi sur des musiques qui font tatapoum, tatapoum. Alors ce soir, pour disséquer les disques, on est avec Nina, Arnaud, Guillaume, Mathieu, Marion et Bibi. Et malheureusement, Héloïse est toujours absente. Reviens-nous vite, Héloïse, le punk français a besoin de toi pour le défendre. Une fois encore, dans un monde où les nationalismes ont le mauvais vent en poupe, on se propose de dépasser les frontières en nous rendant à Berlin, à Liège, à Brighton et à Marseille avec les albums de Lick, It It, Anita, The New Eves et les Cowboys from Outer Space. Alors on a eu un problème, puisqu'on voulait vous présenter le dernier album de 21 Children, un groupe de street punk de Soweto, engagé comme il le faut dans des programmes sociaux, avec des textes incisifs contre le pouvoir. Mais patatras catastrophe, hier soir, on a repéré que le batteur avait commis des violences contre des femmes, notamment sa femme, des violences extrêmement graves. Il a été viré du groupe quand l'info a été rendue publique. Le problème, c'est que le groupe savait déjà tout ça bien avant, mais n'avait rien fait pour que ce soit rendu public et ne l'avait pas viré de leur groupe. Donc hors de question pour nous de le présenter. Et donc pas de punk sud-africain, on essaiera d'en présenter dans une prochaine émission, mais vous pourrez aussi vous consoler avec la compile Africa Corpse, sortie en 2024 chez Shoot It Loud, qui reprend 10 groupes punk d'Afrique du Sud. Et si vous voulez écouter l'histoire des débuts du punk en 77 en Afrique du Sud, il y a le documentaire en ligne Punk in Africa, avec notamment le groupe National Wake, un groupe multiracial de Soweto qui avait été créé en 77 à la suite des émeutes de Soweto, un groupe ultra censuré car multiracial, interdit de concert, interdit de parole, etc. Mais qui a mené la lutte pendant plusieurs années. Vous pouvez toujours vous y référer. Allez, on commence donc l'émission avec Lick qui nous propose son nouvel album Living in a Fiction. C'est paru chez Turbo Discos. On en avait déjà parlé dans le Tatapoum 19, il avait fait l'unanimité, alors Guillaume prétend qu'il avait bien aimé, mais moi j'ai réécouté l'émission, il avait détesté. On verra ce qu'il en est pour cet album, et c'est Nina qui nous a choisi le premier titre, Scum. Yeah. on écoutait Leak. Nina, tu nous présentes le groupe?
Ouais. Alors Leak, c'est un trio berlinois qui a sorti en 2025 son troisième album intitulé Living in a Fiction. À ma grande surprise, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur le groupe, parce que pour moi, c'est un peu des superstars. Cependant, les autres membres de l'équipe de Tata Poum ont l'air de plutôt bien connaître l'historique du trio, alors je laisserai les camarades compléter si besoin. Moi, j'ai découvert ce groupe en décembre dernier, alors qu'une date était prévue au chinois et qu'un ami m'a vivement conseillé d'aller jeter une oreille. Après hésitation, j'ai préféré ce soir-là aller voir jouer les copains de Johnny Mafia pour la énième fois. Et même si c'était super, croyez-moi que je m'en mords les doigts, tant je saigne l'album de Leak depuis. Impossible de pas se laisser séduire par ce post-punk aux influences très cold, voire industrielles. Leak est souvent, et à juste titre, rattaché au classique du genre et surtout à Gang of Four. Mais le trio se dit également très influencé par le post-punk berlinois des années 80. Et moi, en écoutant leur travail, j'ai pensé aussi à des références plus modernes comme Frustration ou Hologram, qui sont des groupes que j'adore. Les titres de l'album ont chacun leur identité, les mélodies sont entêtantes, les lignes de basse sont très groovy et la guitare représente juste ce qu'il faut pour habiller et mettre en valeur le tout. Et comble de ma joie, c'est une meuf à la batterie. Ça fait toujours de découvrir que des groupes qu'on pense 100% masculins sont en fait des groupes mixtes. La découverte de Leak est donc incontestablement mon coup de cœur de la fin 2025. Coup de cœur au point que des morceaux m'obsèdent encore aujourd'hui. Living in a Fiction, qu'on va écouter après, titre éponyme de l'album, est en mon sens un énorme tube. D'autres morceaux comme Stuck in Boredom ou Scum sont de véritables pépites. Petit point négatif cependant, je trouve l'album assez inégal. Des morceaux comme Create, Meet ou Small Man sont dans un style un peu plus minimaliste, rappelant les racines du genre et donc qui sent fort les années 80, mais du coup, bah, forcément, ça sonne un peu moins moderne et je trouve ça moins efficace. Mais en fait, je suis sûre que si ces morceaux n'étaient pas à côté de véritables tubes, je les aimerais quand même beaucoup. Et peut-être qu'en fait, c'est assez frustrant de voir ce dont est capable le groupe et de pas voir son potentiel s'accomplir pleinement dans cet album. Mais peu importe, Leak est un excellent groupe de post-punk qui coche beaucoup de cases pour me plaire. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux camarades qui auront certainement d'autres éclairages à apporter. Et je sais que la plupart d'entre vous ont vu le live au chinois, donc je suis curieuse d'entendre vos retours.
Sans retourner le couteau dans la plaie, le concert était extraordinaire. Et tous les groupes en plus étaient vraiment extraordinaires. On aura peut-être l'occasion de reparler d'autres groupes d'ailleurs de cette soirée dans des prochaines émissions. Il y a une grosse énergie, une forme de simplicité aussi sur scène. Super. Guillaume, est-ce que tu as changé ton avis depuis l'émission?
Non, je suis 19. Là pour modérer votre enthousiasme que je sais particulièrement développé concernant ce groupe. Moi, je suis moins fan, sinon pas fan du tout d'eux. Hein. Je trouve qu'ils se lâchent certes un peu davantage que sur l'album qu'on avait précédemment chroniqué. Ils jouent un peu plus dur peut-être, plus punk garage sur celui-ci. Mais je demeure toujours circonspect sur leur approche musicale. Ça sonne toujours comme des morceaux d'une excessive application à mon goût, sans débordement, presque cérébraux. Il y a un côté froid dans l'exécution, un post-punk tendu certes, mais guère efficace à mon goût. S'il peut séduire, c'est par cette droiture, son côté guindé, cet aspect rigide de leur musique a des réminiscences qui remontent aux fondamentaux du post-punk. Hein. Tu as évoqué Gang of Four, c'est tout à fait ça. Mais pour autant, chez Leak, me manque une certaine subtilité, une souplesse mélodique que leurs compos trop appliqués ne sont pas capables d'offrir. Et donc, en conséquence, je trouve trop limité pour suffisamment me plaire pour la valeur intrinsèque de ce qu'ils font.
Mathieu, j'imagine que tu vas avoir un autre avis.
Oui, je lâche mon acolyte Papy Ronchon sur ce coup-là. Alors, faut se souvenir, moi, il y a 4 ans, j'avais fait découvrir Leak et Pigeon, son groupe alter ego, puisque c'est les mêmes membres du groupe mais qui changent d'instrument, aux chroniqueurs de Tata Poum, qui avaient tous apprécié, sauf Guillaume, tu l'as dit. Et pour moi, donc ce troisième album, il s'est fait attendre, hein, puisque 4 ans, on a l'impression que c'est long. Mais pour moi, ça valait le coup, parce que je trouve que le groupe a continué d'évoluer sans se trahir ni trahir ses fans, parce que j'ai l'impression que tout change effectivement. Le ton, il s'est un petit peu durci. Il y a le côté punk du post-punk, se révèle un peu plus régulièrement, mais ça reste quand même du Leak. On reconnaît le son du groupe et la preuve en est par les versions live. Je suis désolé, Nina, on revient dessus, mais en tout cas, en live, ça reste du Leak, y compris les nouveaux morceaux. Ça montre toujours ces versions live un groupe qui se prend pas pour un autre, qui est toujours entre sobriété et efficacité, beaucoup d'efficacité, mais vraiment sur scène ils font pas dans l'esbrouf, et donc à l'écoute de cet album et des versions live, fan j'étais, fan je reste encore plus avec cet album.
Et toi Arnaud?
Eh bien pareil, peut-être un avis un peu plus nuancé, enfin différent, sur ce côté martial. C'est-à-dire que moi je trouve que certes c'est du post-punk, mais qui a vachement de groove, qui donne envie de danser. Il y a quand même vraiment énormément de morceaux qui m'ont fait plus que bouger. C'est peut-être plus wave que cold, je trouve. C'est ce que m'a fait penser la première écoute, parce que comme toi Nina, c'est un album que j'ai écouté de très nombreuses fois. C'est, je trouve, pas pesant, moi. Pas steady, la force rythmique, enfin la force de la section rythmique qu'on avait déjà souligné, je pense, plusieurs d'entre nous lors de la précédente chronique qu'on avait faite, est vraiment impressionnante. C'est très solide, c'est très entraînant. On passe du tubesque, en effet, Living in Action, qu'on va écouter juste après, à Stuck in Boardroom, qui est une vraie machine à pogo. Alors certes, c'est punk, post-punk, mais je trouve qu'ils ont un sens pop aussi. C'est ça qui fait, à mon avis, les sortir du lot. C'est, y a la guitare, le lead mélodique de la guitare est vraiment imparable, parce que elle se développe autour d'une base rythmique qui est à tomber quand même. Et puis ils ont le talent de rajouter des petits détails sur certains morceaux. Sur Small Man notamment, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette petite percu qui change pas grand chose, mais qui amène du groove à plusieurs moments du morceau, moi que j'ai trouvé vachement intéressant. Comme toi, ça m'a fait penser à Hologram, un groupe suédois, notamment le premier morceau de leur premier album qui était aussi un tube. J'ai ressenti un peu ça à l'écoute de cet album. J'ai aussi pensé à Rendez-vous, avec leur premier EP Distant qui était sorti sur un label italien, où on avait ce côté très dansant du post-punk, mais avec quand même un côté martial qui est pas pesant ici. C'est moins premier degré, je trouve ça plutôt festif. D'ailleurs la vidéo qui est en lien sur Bandcamp pour un des morceaux, on les voit plutôt rigolards. Je les ai pas vus en live moi, mais j'ai l'impression que c'est en effet un groupe qui se prend pas la tête et qui a l'air de plutôt s'éclater. En tout cas, sur l'album, et j'imagine que c'est peut-être le cas aussi sur scène. Et c'est un album qui a une presse absolument vide en France. Je pense qu'il faudrait qu'on se l'envoie aussi à 10 amis pour que ils aient le succès qu'ils méritent, et que la presse peut-être s'empare d'une chronique de cet album, parce qu'il y a vraiment quasiment rien. Et encore une fois, merci Mathieu de nous l'avoir fait écouter il y a 4 ans, parce que ils ont un vrai talent.
Et oui, comme Tata Poum ne recule devant rien pour faire plaisir à ses auditorices, on va vous passer un deuxième extrait de ce magnifique album choisi par Nina, c'est Living in a Fiction. We'll be right back. Et voilà, on a écouté donc Leak, et on va changer de crèmerie en passant à Hit Hit Anita et leur nouvel album qui s'appelle Hi Hi Haha. Je sais pas très bien comment prononcer ça. Ils ont toujours eu des titres un peu curieux. On en avait déjà parlé d'Hit Hit Anita dans un des premiers épisodes de l'émission Tête à Poum, de l'épisode 5, et l'album avait fait l'unanimité à ce moment-là. Et donc on va voir ce que donne ce nouvel album. On va d'abord écouter un premier titre que qu'Arnaud a choisi, c'est Modern Architecture. Allez, c'était Hit Hit Anita, du gros son. Et c'est Arnaud qui va nous le présenter.
Ouais, donc c'est déjà le cinquième album long format du groupe dont on a parlé dans une émission précédente. Toujours signé sur le label bordelais Vicious Circle. Et encore une fois enregistré à Laval par Amaury Sauvé, qui a déjà signé leurs deux précédents enregistrements. On y retrouve donc un son assez familier, puisque le pressage et la prod est fait par le même gars. Pas beaucoup d'évolution sonore après les deux premiers albums qui avaient des accents très soniciens, un son plutôt noise. Ils naviguent depuis leurs trois derniers albums là dans vers des sonorités tantôt métal. Là, c'est le morceau avec les accents le plus métal de l'album, tantôt vers des phrasés un peu hip-hop comme sur Bimb ou Trevor qu'on va écouter juste après. C'est toujours très efficace. On y trouve, comme dans quasiment tous leurs albums, une petite bombe mélodique. Là, c'est Social Dodger sur cet album-là. Ils finissent très généralement par un dernier titre qui est souvent un contre-pied. Là, c'est Over Under. C'est toujours le cas dans leurs titres. Sur le dernier un peu particulier, pas dans la même veine que les morceaux de l'album, pardon. Alors, on pourrait peut-être leur reprocher d'user un peu trop d'une formule assez similaire. Mais la cuvée 2026, trois ans après avoir fait mouche, est encore d'une très grande qualité. Côté texte, c'est encore une fois prise avec les traumas sociaux actuels. On rit jaune. C'est un peu d'emblée ce qui ressort du titre de la pochette second degré et du visuel. Mais bon, maintenant, va peut-être falloir aller encore plus loin dans les textes et faire de l'anticipation tant le réel dépasse la fiction à une vitesse vraiment assez flippante. On pourrait même dire que c'est la réalité devient assez impensable. C'est ici et c'est là dans l'album avec le titre Leyen Tamer qui traite d'une guerre dystopique entre Russes et l'Occident. Je sais pas si on en est allé très loin, mais en tout cas ils essayent de rire jaune de l'actualité qui est quand même assez dramatique. Pour moi, c'est encore une fois un très bon album. Les cinq, moi, je suis fan depuis le début. Tous les albums sont vraiment de très grande qualité. La recette fonctionne vraiment bien. Ils ont perdu un membre déjà il y a deux albums. Ça a fait évoluer un peu le son vers des contrées un peu plus punk metal, mais ils ont rien perdu en efficacité. Notamment en live, c'est un groupe qu'avec Cédric qu'on a vu plusieurs fois. C'est assez imparable. Ils ont vraiment un show qui est dingue. Notamment, je sais pas si ils le font toujours, mais le batteur avait pour habitude, moi ça fait deux ans que je l'ai pas vu sur scène, de déplacer sa batterie, de la déporter, de la foutre au milieu du public et d'avoir une quinzaine, vingtaine de minutes de fin de set qui était juste dingue. En tout cas, c'est une très très bonne cuvée. Même si bon, on pourrait leur reprocher, hein, c'est y a pas tant d'évolution majeure que ça depuis trois albums, mais c'est quand même une très belle facture.
Ok, et Guillaume.
Guillaume, il connaît très mal Hit Anita. J'ai le souvenir du Tataploum numéro 5 d'il y a 5 ans maintenant. Où je leur ai trouvé un côté un plus fuguesien que soniquiesque, on va dire. Et justement, c'est cet aspect soniquiesque qui retient plus mon attention dans cet album. Le morceau qu'on vient d'entendre là, c'est effectivement, il sort un peu du reste du disque, mais la patte soniquienne est très portée sur pas mal de ce qu'ils font, notamment sur Social Dodger, le meilleur morceau à mon goût, mais aussi sur Over Under, qui est assez frappant aussi. Et mon impression est en fait moins bonne dans le ressenti que celle que j'ai pu avoir il y a 5 ans. Les distorsions, changement de tempo, le chant manque un peu de mordant et ce manque d'agressivité fait qu'ils ne rivalisent pas bien sûr avec les New Yorkais, mais il y a des formations actuelles comme Hooked ou Ice Age par exemple qui ont plus sur ce même créneau musical plus de percutant à mes oreilles que ce qu'ils proposent. J'ai l'impression que en modérant un peu leur musique, ils ont perdu un peu des fondamentaux d'un genre soniquiesque, on va dire, pour dire les choses comme ça. Il y a aussi le côté mélodique qui m'a un peu rebuté. En abandonnant le noise rock mélodique qu'on avait sur l'album Sauvé pour des compos plus expérimentales, déstructurées, Anita ne réussit pas vraiment à franchir un cap en matière d'accomplissement musical, on va dire. Et voilà, ça, pour moi, c'est le souffle n'est pas assez puissant pour avoir été conquis par cet album.
Et toi, Mathieu, tu restais sur ta première impression d'il y a Il y a 5 ans ou...
Oui, alors en fait, c'est vrai que moi, j'avais découvert le groupe avec l'album Sauvé en 2021 et j'ai apprécié à chaque prestation scénique le groupe et ce qui, en fait, ce qui aide aussi à rentrer dans la musique du groupe. Tu le vois sur scène, t'adores, donc t'as envie de réécouter les albums, tu les écoutes d'une autre façon. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le groupe sera le 24 mai à la Maroquinerie. Voilà, c'est juste une indication. Pour moi, comme toujours, parce que c'est vrai que même s'il y a eu des petites évolutions, il y a quand même des bases. Le groupe pratique un genre noise assez varié. Arnaud, t'as cité le titre Lion Tamer. Alors je sais pas si c'est un clin d'œil à Wire, au morceau Ex Lion Tamer, qui n'a absolument rien à voir. Donc ce morceau, il me rappelle les Hollywood Porn Stars, un autre groupe belge des années 2000.
De Liège.
Oui, de Liège aussi. Hein. Ben oui, oui. Ben c'est voilà, c'était avant Me Too. C'est comme ça qu'on dit. Et même quand le phrasé ne devrait pas me convenir, hein, tu l'as dit, le trait hip-hop bimb, B-I-M-B, ben pour moi ça passe crème, ce qui est presque étonnant, parce que comme j'ai un côté ayatollah. Voilà, l'écoute de cet album, pour moi c'est un pas de côté dans ma zone habituelle de confort, mais tant mieux, parce que ça me permet de me remettre en question, et c'est bien de ne pas rester juste un papier ronchon.
Oui, moi je trouve aussi que c'est encore un bon album. Je suis un peu moins fan des titres un peu plus métal, comme celui qu'on a écouté tout à l'heure. Bon, on sent qu'il pourrait verser dans une musique un peu lourde, comme les Stone Age par exemple, mais il y a toujours un petit pas de côté quand même dans leurs titres qui change un peu la donne, qui permet de s'écarter de ce genre de musique que moi j'apprécie moyennement. Et c'est vrai qu'il faut vraiment aller les voir sur scène pour vraiment bien goûter à l'album. C'est un groupe sur scène qui sent la sueur, qui donne, voilà, qui fait ressentir le concert et qui permet de les voir un peu différemment. Toujours une trailette pochette, mais ça c'est un peu un classique depuis le début. Toujours un titre d'album ridicule. Alors ils prennent plus leur titre de producteur puisque c'est chaque fois le même. Donc ils sont arrivés au bout de la démarche.
Ouais. La pochette de Sauvé était belle.
Ouais.
Mais enfin quand même plus que enfin
ouais,
plus
ça que
les
autres.
Oui, moi je suis pas dessinateur, je trouve que c'est beau.
Bon, le dernier, moi je pense que c'est leur chien mouche qui bon, voilà. Sinon peut-être un petit mot aussi sur cette scène liégeoise. Bon, donc il y avait les Hollywood Porn Stars. Bon, c'est sûr que le nom était pas très judicieux, mais c'est une scène qui est maintenant assez florissante et qui l'a pas toujours été, hein. On retrouve des groupes comme Experimental Tropic Blues Band. Peut-être qu'il s'égare un peu sur son dernier album, et celui d'avant, mais qui a été très bon, un peu plus garage là, des groupes comme Hiatus en Greencore, Prince Harry qu'on a déjà chroniqué ici, Grokker, Cocaine Peace, etc. Bon, quoi.
Que des beaux noms.
Il y a aussi My Little Cheap Dictaphone, je suis pas sûr qu'ils existent encore, mais... qui est encore là il y a 4-5 ans. Bon, il y a toute une scène liégeoise, il y a un label jaune-orange, maintenant il y a des disquaires, etc. Alors qu'il y a, je veux dire, près de 30 ans, il n'y avait plus grand-chose. À la fin des années 80, il restait quasiment plus rien, et c'est notamment une salle, La Zone, qui a relancé toute la machine en proposant des concerts, un concert par semaine avec des petits groupes à des prix réduits, qui faisaient venir des groupes un peu partout, États-Unis, bon, etc. Qui ont relancé avec des goûts assez larges, je veux dire dans le rock, et qui ont relancé toute cette machinerie qui a essaimé un peu partout en Wallonie, à Charleroi, Namur, bon, etc. Avec des petits groupes appuyés aussi notamment par René Binamé, qui a multiplié les concerts dans ces années-là et qui a fait éclore des collectifs dans des villages, voilà, qui programme un concert par mois, tout ce qu'on voyait pas dans une ville aussi, Liège, on l'avait déjà dit la fois dernière, c'est aussi une ville qui a pris cher ces dernières années avec la fin de la sidérurgie, qui était un des gros pourvoyeurs d'emplois dans la région. Maintenant tout est fermé, donc une ville sociale où l'actualité sociale est difficile, mais aussi une ville qui a été le cœur des révoltes en Belgique au XXe siècle, au cœur des grandes révoltes de 1960 qui avait pris un tournant quasiment insurrectionnel. Et depuis lors, bah, c'est souvent de là que ça part. Aujourd'hui, il y a encore un front antifasciste hyper hyper dynamique, et tout ça alimente cette scène avec plusieurs salles qui ont été créées aussi. Donc bref, un gros renouveau de la scène. Je suppose qu'on aura encore d'autres groupes dont on parlera à l'avenir à partir de Liège. Allez, on s'écoute un deuxième titre de Hit Hit Anita avec Trevor.
Thank you.
Allez, c'était Hit Hit Anita. Et alors là, on va changer complètement de style, oh, puisqu'on va parler des New Eves. Les nouvelles Eves, hein, pas les nouveaux Eves, qui nous viennent de Brighton et qui nous proposent un album The New Eve is Rising. Et c'est Mathieu qui a choisi un premier titre, The New Eve.
The new eve is rising. From the pages of a burnt Bible, from the roadsides and the gutters, the marshes and the meadows, from the pulpits and the cafes, from the forests and our backbones. The new eve is curious and free. She eats what she wants to eat. Every fruit from every tree she devours guiltlessly, and thick red fruit blood run down her hungry mouth, and thick red fruit blood run down her naked thighs. The new Eve is not ashamed when she bleeds. The new Eve spits out the seeds from the fruit of the forbidden tree, and then she plants them carefully, nurturing an orchard of apple trees. The new Eve is of earth, granite, ochre, magma, dirt. All the bones in her body are holy. All the stones in her pockets are homely. She is an animal among animals, among humans, wild and full of purpose, tender and ferocious, limbs and loins burning of lust. And the new Eve fucks, the new Eve fucks if she wants to, the new Eve says no if she doesn't want.
C'était The New Eves et c'est Mathieu. Est-ce que tu vas nous annoncer la révélation?
Non, je suis pas comme ça, moi. The New Eves, c'est un quatuor féminin de Brighton qui s'est formé en 2021. Et c'est encore un groupe de Brighton puisque la cité balnéaire continue de nous fournir régulièrement des nouveaux groupes. Ça avait commencé à la fin des années 70 avec Peter and the Test Tube Babies. Et puis, c'est allé jusqu'à Bad for Lashes, Blood Red Shoes, The Go Team, les Pipettes, les Cooks, les 80s Matchbox Behind Disaster, Primal Scream ou Royal Blood. Faut rayer les groupes inutiles là-dedans. Hein.
Les Lambrini Girls aussi.
Non, c'est.
C'est Brighton Lambrini Girls.
Edith. Ouais. Et les Dits aussi. Oui, oui, mais enfin, j'aurais pu rester des heures. Alors, on entend beaucoup parler de liens avec le Velvet Underground. Sans doute à cause des violons et violoncelles, mais pour moi la musique du groupe va beaucoup plus loin que les très surestimés partenaires et serviteurs de Lou Reed, dans un genre de rituel folk qui n'a pas oublié la fureur du punk. Et les chants qui paraissent doux traitent de féminisme, donc on est quand même dans un groupe très très engagé. Et alors, je dois avouer que j'ai été plus enthousiaste à la première écoute qu'aux écoutes suivantes. Ça, pour moi, ça a été un choc, la première écoute. Je dois avouer quand même que le savoir-faire et le goût du risque et de l'expérimentation de ces quatre donzelles font mouche pour moi. Et en plus, il se dit que les performances live valent le coup et sont très impressionnantes. Donc, je suis prêt à me laisser tenter par une version scénique.
Arnaud, toi aussi.
Ouais, c'est quand même un peu du folklore en pays bigoudin. Ça m'a presque donné envie de manger des crêpes, moi. Mais on sent quand même vachement l'influence celte dans le groupe. Flûte, violon, harmonica sont de sortie. Alors je plaisante un peu, bien sûr, mais elles ont en effet carrément beaucoup plus à apporter que le folklore celte. Hein. Mais elles y puissent quand même un côté mystique, chamanique, qui rend leur musique rapidement envoûtante, comme tu l'as dit, Mathieu. Et les voix et les chœurs, ils sont réellement pour beaucoup. Et elles arrivent à ajouter des sonorités électriques, presque post-punk sur le titre Highwayman. Et on oscille en permanence entre des ambiances planantes et des moments de tension. C'est vraiment très beau. Ça m'a fait moi penser à PJ Harvey aussi. Et en plus contemporain, pour des groupes très musicaux comme ça, Black Country New Road, pardon. Avec des groupes où, composés de personnes venant de formations classiques au départ, d'où les flûtes et le violon, le xylophone, et elles savent en jouer. C'est pas du tout un détail. Hein, et le hasard fait que ces personnes croisent ensuite des musiciennes qui viennent plus peut-être d'un milieu rock, et ça donne un savoureux mélange. Dans la même veine, il y a un autre groupe anglais, Caroline, et le danger de ce style, c'est de tomber un peu dans le larmoyant et dans le pathos, et c'est absolument pas le cas des New Wave, et donc c'est une vraie réussite, c'est un très très bel album. Alors je sais pas, moi je l'ai écouté deux fois. Les deux fois, j'ai été plutôt enchanté. Je ne sais pas s'il passera l'année, mais en tout cas, j'y reviens avec plaisir.
Et toi, Guillaume?
Moi, j'ai remarqué qu'on aime bien les groupes un peu qui sortent de l'ordinaire à Tatapoum. Donc après le punk colombien de l'émission précédente, voici du folk païen en provenance de Brighton. pour tenter de donner un nom au genre que pratique l'équateur de The New Wave. Iconoclaste et proche d'une démarche free jazz à la Alice Coltrane, qui mêlerait talk shooting théâtral et des expérimentations sonores, l'album intrigue merveilleusement et réussit en soi par sa capacité à déroger au tout venant pour développer son univers à lui. C'est si rare et précieux ce genre de disque qu'il faut savoir savourer et prendre le temps de se laisser charmer par le merveilleux équilibre auquel parviennent les femmes de Brighton. Bien sûr, les références fusent de partout, à commencer par le Velvet, Mathieu l'a évoqué, mais aussi, moi j'ai beaucoup pensé, notamment sur le morceau qu'on vient d'entendre, à Patti Smith, mais aussi au Raincoats, pour le côté un peu plus rythmique de d'autres morceaux, des artistes hétérodoxes qui surdéveloppaient un univers singulier en leur temps. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on réclame, moi ce que j'attends de formation rock. Et The New Eve ose cette audace, se permet de lancer des mélanges incongrus entre folk et croûte, entre violoncelle, flûte et sonorité rock, à s'aventurer vers des ambiances aussi rituelles qu'avant-gardistes. C'est surprenant de bout en bout, cet album. C'est singulier et réjouissant à découvrir et à entendre. Bref, une vraie curiosité qui réjouira tous ceux et toutes celles qui aiment sortir des sentiers battus.
Alors Nina, enfin d'accord avec Guillaume?
Eh oui. Alors moi, j'ai été séduite dès l'ouverture de l'album avec le titre éponyme qu'on vient d'entendre, The New Eve is Rising, autrement dit, une nouvelle ève est en train de naître, ou encore une nouvelle ève se soulève. Manifeste féministe sous forme de poème déclamé sur une montée en puissance musicale. D'ailleurs, pour celles et ceux qui comprennent l'anglais, l'album est un vrai régal en termes d'écriture. The New Eve is Rising est un disque varié, nourri de plusieurs influences, en commençant par le post-punk, tirant parfois vers la noise, souvent vers la folk, le tout rythmé par des chants polyphoniques. On y trouve, comme vous l'avez dit, du Patti Smith, du Velvet Underground, ou dans un autre genre, du Kate Tempest. Le tout donne l'impression d'être au cœur d'un sabbat post-punk, et moi, les délires de sorcières, c'est carrément mon truc. Je trouve que c'est l'imaginaire parfait pour créer un univers musical expérimental, organique et politique, quoique je suis plus de la team sorcière gothique que nouvelle ève païenne vêtue de blanc, à l'instar des quatre musiciennes du groupe. En conclusion, la musique de The New Eve célèbre la nature, le vivant, la liberté des corps et des esprits, le rejet de l'autorité, le tout donne un disque politique et libérateur dont on a cruellement besoin par les temps qui courent.
Eh ben super, on va s'écouter un deuxième titre que tu as choisi, donc c'est Rivers Run Red.
vous entendez donc ces étonnantes New Waves. Et là encore, on va changer complètement de registre, puisque maintenant on va passer aux Cowboys from Outer Space et leur nouvel album Spaceship to Nowhere, qui nous viennent de Marseille, qui constituent un peu les piliers du garage marseillais, avec un album attendu depuis plusieurs années. Et donc on va d'abord écouter un premier extrait choisi par Guillaume, le grand spécialiste du garage marseillais, qui nous a choisi Spaceship to Love. Écoutez les Cowboys from Outer Space, et c'est Guillaume qui nous les présente.
Ouais. Alors, ils ont beau s'être formés en 1997, rendez-vous compte, et avoir à leur compteur plus de 1000 dates de concerts dans des festivals aussi prestigieux pour leur programmation que sont ceux de Dour, les Docks du Sud, Gara Rock, Cosmic Trip, Freak Show, tous des festivals dont aucun n'a jamais pensé à programmer, ne programmera jamais. D'ailleurs, le moindre groupe dont on parle ici à Tatapoum, à part bien sûr les Seconds Couteaux hexagonaux dont on est tenu de parler parce que on doit se conformer à la loi Toubon de 94 imposant des quotas de diffusion en langue française sur la radio. Et donc moi, je n'avais jamais entendu parler de ce groupe Cowboys from Outer Space, non pas que je considère la scène musicale rock française sans grand intérêt, mais simplement parce que les Cowboys pratiquent un rock and roll d'un créneau particulier que je ne fréquente pas, le blues rock and roll, un sous-genre comme il en existe tant d'autres qui mélange donc rock and roll dans un style le blues où les modulations électriques sont très appuyées à de fortes influences garage. De ce que j'ai compris, le trio en fait marseillais pratiquait un son plus punk à leur début, mais avec le temps, comme il arrive souvent, leur jeu s'est assagi vers un rock'n'roll à l'influence garage plus marquée, la facture blues demeurant toujours centrale dans leurs différents albums. Donc celui-ci est le 8e, il aura mis 10 ans à paraître après le précédent, toujours chez le label marseillais Lollipop Records. Il y a un côté gun club dans ce qu'ils font pour la partie la plus plaisante du disque, et une autre qui l'est moins parce qu'elle nous entraîne vers un rockabilly avec effet de manche, hein, sur le morceau Better Man on l'entend très bien. C'est une musique clairement datée qui s'assume comme telle, qui joue à fond la surenchère d'un psychobilly où l'ambiance poisse prime. Les musiciens n'étant pas exceptionnels, l'ensemble en fait un disque tout juste passable à mon goût.
Arnaud,
ouais, bon, est-ce qu'on peut vraiment être déçu à l'écoute de l'album? L'énoncé du groupe, le titre de l'album, la tracklist annonce quand même la couleur, c'est du love et du love. Plus tarte à la crème, on fait pas. À l'approche de Saint-Valentin, ça peut peut-être faire un beau cadeau. Alors pas pour accrocher quand même dans le salon, tant la pochette est vraiment laide. Mais bon, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Hein.
C'est pas fou.
Ah ouais, elle est vraiment hideuse. Hein. Bon oui, enfin à l'écoute, oui, on est clairement dans le rockabilly stoner américain, la John Spencer Blues. On sent vraiment l'admiration de ce groupe pour tous les groupes ricains, et pour être honnête, c'est pas, moi je trouve pas que ce soit fait avec les pieds, Guillaume, c'est pas, l'écoute est pas désagréable. Oui, oui, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Y a quand même des solos dans plusieurs morceaux qui sont assez interminables. Je sais pas si Mathieu aura apprécié ces passages. Et puis les 80 love égrenés tout au long de l'album m'ont vite saoulé. Mais ce qui me met peut-être le plus mal à l'aise, c'est pas forcément de leur faute, c'est cette admiration que semble avoir le groupe pour le son US, le côté un peu Easy Rider, Route 66, Cowboy à l'assaut et tout compagnie, quoi. Et en ce moment, je dois dire que tout ce qui vient de ces contrées-là me fait un peu, me donne un peu des haut-le-cœur pour pas dire plus. Alors c'est certes du rockabilly, on n'est pas dans une modernisation du style. C'est une copie un peu classique du rhythm and blues et sans prise de risque. Voilà, je vais pas non plus être plus méchant que ça parce que j'ai pas non plus, j'ai écouté l'album, j'y reviendrai absolument pas, mais j'ai pas non plus détesté.
Nina?
Moi, j'ai pas trop su quoi penser de ce disque qui est aussi entre rock old school et ovni nourri d'influences multiples. Et en fait, ça m'a un peu fait penser à un autre groupe plus récent, mais qui est dans le même trip rock classique, pas toujours classique, King Lizard and the Gizzard Wizard, notamment sur le titre Move On Down, que j'ai par ailleurs plutôt aimé. Toujours est-il que les solos de guitare et riffs d'inspiration blues à tous les coins de rue, ça a tendance à pas mal m'agacer. Mis à part ça, j'ai relativement bien aimé l'album, que je réécouterai pas spécialement. Donc album qui condense 30 ans de musique et d'influences diverses, car effectivement, le groupe existe depuis 30 ans, ce qui est quand même une sacrée prouesse. Donc pour moi, plus que des voyageurs de l'espace, les Cowboys from Outer Space sont davantage des voyageurs du temps, qui ont vu passer des décennies de rock et ses sous-genres, et qui, nourris de toutes ces influences, nous pondent un album intemporel, qu'on ne saurait pas vraiment dater si on l'écoutait sans aucune info sur le groupe.
Bon, si j'ai bien compris, Mathieu, est-ce que je vais aller seul au concert ou est-ce que tu vas m'accompagner?
Alors pour le concert, je sais pas encore. Il faut que je vérifie. En tout cas, moi, non mais il faut que je vérifie mon agenda, s'il vous plaît. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà. Alors moi, je suis surpris par ce qui vient d'être dit avant moi. Pour moi, c'est du rock'n'roll joué par des Français. Alors évidemment, j'imaginais que Guillaume n'était pas resté insensible à cet album. Avec rien que cette définition, mais voilà, cet album il a été enregistré chez Low Spider, qui est quand même le pape de la chose depuis le décès de Lucas Trouble il y a quelques années. Dans le genre, je dois avouer que, mis à part quelques voix qui sont un peu trop trafiquées à mon goût, qu'on retrouve au fil de l'album, je me sens plutôt à mon aise avec cet album, parce que dans le genre on est plutôt dans la bonne tranche qualitative, et moi je ferai pas la fine bouche, ça me convient plutôt bien, cet album rock and roll et pas vraiment rockabilly. J'aurais vraiment pas dit rockabilly, ça c'est sûr.
Rock et blues.
Très bien. Mais ouais, même rock and roll plus que rock et blues.
Très présent sur.
J'ai l'impression que ce débat va durer toute la nuit, mais en attendant, on va s'écouter un deuxième titre, Move On Down.
approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
C'était Tatapoum, épisode 70. On retrouvait toute l'équipe de sorcières gothiques et de spécialistes du folklore en pays bigoudin qui n'ont pas hésité à user et abuser des fêtes manches. Il y avait donc Mathieu, Nina, Guillaume, Arnaud et derrière les boutons, Marion et Bibi. Salut à tous.
Salut.